Docteur Kababa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, homme politique, mais aujourd'hui nous allons parler de la littérature puisque vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « La politique de la chaise vide en République démocratique du Congo ».
Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Non, c'est un titre, d'abord c'est habituel d'entendre les gens parler de la politique de la chaise vide qui ne paye pas. J'ai voulu décortiquer un peu cela compte tenu de la petite expérience que nous avons depuis la conférence nationale jusqu'à ce jour. Et je me suis rendu compte que c'est un concept qui peut cacher beaucoup de non-dits. Et en analysant des cas depuis le temps du maréchal président Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, jusqu'à nos jours, je me suis rendu compte que il fallait essayer de déblayer un peu le terrain sur l'entendement de ce concept de la politique de la chaise vide. Voilà un peu ce qui m'a poussé.
Cet ouvrage, c'est les résultats de votre expérience.
Tout à fait, c'est les résultats de mes constats. C'est en fait l'analyse de toutes les situations politiques dans lesquelles nous sommes passés, où nous avons vécu avec des amis qui parlaient changement tel que nous l'entendions à l'époque, mais qui ont pu évoluer au sein des institutions, et d'autres avec lesquels nous sommes restés dans le combat de tous les jours, et la résultante nous a amené à cogiter et à pondre ces documents qui n'est qu'une interpellation de la classe politique pour un débat beaucoup plus profond dès qu'on l'a lu.
Revenons-en à la politique. Il y a certaines personnes qui disent que la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais vous, vous êtes resté constant. Certains nombres d'amis avec qui vous avez commencé cette lutte, ils sont partis pour dire que non, voilà. Ce n'est pas seulement d'être de l'autre côté pour changer les choses. On peut aller changer de l'intérieur.
Oui, ça c'est une façon de voir. Vous savez, l'essence des pouvoirs dont nous avons hérité pratiquement depuis le président Mobutu jusqu'à ce jour, ce sont des pouvoirs pour la plupart qui nous sont imposés de l'extérieur et qui sont soutenus par la force. Nous avons été à la conférence nationale souveraine où une des options fondamentales a été celle de ne jamais accéder au pouvoir par la force et où nous avons dit à l'époque que le peuple a le devoir sacré de combattre tout homme ou tout groupe d'hommes qui se maintient au pouvoir par la force ou qui cherche à prendre ce pouvoir par la force. Il y a beaucoup d'articles au niveau de nos constitutions qui reprennent cet esprit de la conférence nationale. Et dès qu'un pouvoir est là par la force des armes, par l'imposition de l'extérieur, et qu'on vous y invite, et vous avez des aspirations profondes du peuple, c'est à vous de faire le choix. Où vous y allez, tout en sachant très bien qu'il sera difficile de transformer quelque chose de l'intérieur, par décence, je n'ose pas citer les noms de pas mal de politiciens avec lesquels nous avons évolué et qui sont entrés dans des pouvoirs en se disant « on va changer de l'intérieur ». C'est ce que nous appelons dans notre livre les participationnistes. Mais beaucoup d'entre eux ont été avalés par le pouvoir. Vous tenez un langage aujourd'hui et demain vous en avez un autre. On peut avoir des modifications de forme, mais le fond de l'action qu'on doit avoir doit aller dans le sens de tout ce qu'on a toujours fait. Si nous avons eu personnellement à décliner des postes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Nous sommes un petit fonctionnaire de l'État. Nous aurions pu nous contenter de tous ces postes pour nous faire aussi de l'argent facile. Mais je pense que quelque part, à un moment donné, il faut savoir distinguer les principes des penchants que tout Congolais, les penchants que tout homme peut avoir face au bien matériel.
Là, ça me renvoie directement au premier chapitre. Vous écrivez ceci. Pendant les années de plomb de la doctrine mobutienne, il y eut un homme, le professeur Modimbe, qui n'est pas allé par quatre chemins pour décliner l'offre du feu, le maréchal Mobutu, de faire partie du comité central du mouvement populaire de la révolution. C'est aussi le tollé général.
Tout à fait. Vous savez, il n'y a pas que Modimbe. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce que lui a refusé de se tremper. Et je pense que c'était par rapport à ces principes. Je ne pense pas que le professeur Modimbe, en tant que professeur d'université, quand on voit comment ils sont payés, il aurait pu aussi aller au comité central. Il aurait pu avoir les avantages qu'avaient tous les Kitima et les autres, ainsi de suite. Il pouvait le faire. Il y avait plusieurs professeurs d'université. Mais ce monsieur, il gagnait très peu, il a refusé pour des principes. Et il a gardé sa tête haute. Il n'y a pas que lui, il y a des gens qui ont pu du temps de Mobutu, dit non, mais on les compte sur les doigts d'une main. Ils ne sont pas très nombreux. Ce sont des personnes à chercher à la torche, pratiquement. Donc, ce que nous avons voulu souligner là-bas, c'est de dire que quelque part, quand il y a une incompatibilité entre des visions personnelles ou des visions d'un groupe et des sollicitations qui nous viennent de l'extérieur, il faut avoir le courage de dire non, et il faut avoir le courage de renoncer même à des avantages matériels. C'est comme ça que la société avance. Sinon, nous sommes bloqués dans une logique du vécu, de la quotidienneté, et la logique des apparences, et la logique du « m'as-tu vu », tout simplement.
À la page 175, vous dites ceci, « Il faut mettre la main à la pâte pour combattre les antivaleurs. L'élite doit cesser de subir la politique en laissant aux mains des opportunistes qui ont largement occupé cet univers. »
Tout à fait, il y a une partie de l'élite qui est dans la politique, mais il y a une autre partie qui s'en méfie. Beaucoup d'hommes sérieux, et très intelligents, estiment que la politique est salissante, c'est le métier ou la profession du mensonge, c'est l'intrigue, c'est l'assassinat, la corruption. Il y en a qui le disent comme ça, ils n'ont pas totalement tort. Mais par contre, pendant que eux battent en retraite, il y a une catégorie de gens que je peux peut-être appeler d'aventuriers, qui n'ont aucun scrupule, eux entrent en politique, et finalement, c'est eux qui gèrent la cité. Imaginez cet aventurier qui aujourd'hui devient ministre dans tel ou tel autre domaine, et toutes les têtes qui font la technocratie, comme on a l'habitude de l'appeler, vont l'appeler chef, tout en sachant qu'il n'a aucune moralité, tout en sachant que ce n'est pas une personnalité, en tout cas, recommandable, et on regrette. Je voudrais demander à tout intellectuel, même si elle n'est pas, enfin, il n'est pas engagé dans le combat politique de façon claire, de comprendre que la responsabilité de la gestion de l'État nous incombe à tous. Et que, comme disent souvent beaucoup d'auteurs, vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous.
Là, vous appelez l'élite à s'engager
tout
dans la politique,
mais
vous récusez la participation dans l'action politique. Quand nous exhortons les intellectuels à venir, nous les exhortons à venir à être dans la constance avec le Front Patriotique, à venir, à rejoindre les plateformes comme les G14, dans lesquelles vous avez des personnalités qui restaient constantes par rapport à la politique que nous avons défendue à l'époque à la Conférence nationale souveraine. Alors, lorsque j'essaie de parcourir l'ouvrage, d'après vous, la politique, c'est un état d'esprit?
C'est un état d'esprit qui vous prédispose à poser des actes en fonction des aspirations profondes du peuple. C'est un état d'esprit qui vous pousse à avoir une justice vraie. Vous avez une caste de gens qui vous construisent des bâtiments de 10 étages en moins de 6 mois, des gens avec qui nous étions à la Conférence nationale et qui avaient des revenus modestes.
Oui, docteur Kabamba, alors au regard de tout ce que vous venez de donner comme explication sur cet ouvrage ici, alors où se situe le problème? Est-ce qu'au niveau de l'homme ou au niveau du système?
Il y a deux problèmes. Il y a un problème de l'homme et il y a un problème du système. Le système est verrouillé, c'est un système qui, de l'extérieur.
Ouais, vous ne voulez pas que les gens occupent cette chaise-là, mais la chaise va rester vide.
Non, cette chaise-là est dans un système avec des hommes qui évoluent dans une façon de penser qui n'est pas conforme à un projet de société comme celui de la Conférence nationale souveraine.
Docteur Kabamba, alors, nous sommes presque à la fin. Où est-ce que les Congolais peuvent trouver cet ouvrage?
Nous n'avons pas encore plusieurs points de vente. Nous avons un lot qui n'est pas encore suffisamment... Mais la meilleure adresse, c'est notre numéro de téléphone. Ici, ceux qui peuvent me contacter au niveau de l'hôpital, l'hôpital provincial général, à Kimwenza, chez les curés, on a laissé aussi quelques exemplaires, mais on n'a pas encore bien organisé tous les points de vente. C'est pour ça que nous parlons de notre numéro de téléphone, les 099 214 et 99, donc 099, donc 94 fois 214 et 99. Voilà, si on nous appelle par ces numéros là il y a moyen que nous puissions orienter ceux qui éventuellement aimeraient avoir ce livre.
Merci beaucoup, docteur Kabamba.
Merci, c'est moi qui vous remercie.